Comment dire des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre table, puisqu'à travers le rendez-vous annuel Goût de France, c'est la fête de la gastronomie française aux quatre coins du monde jusqu'à dimanche. Depuis bientôt 10 ans maintenant, le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Bien manger, bien boire, prendre plaisir aux saveurs et partager la joie d'être ensemble fait en effet partie de la culture et peut-être même de l'identité française. En témoigne notre convive du jour. Le restaurant, écrit-il, est devenu le signe même d'une civilisation française célèbre sur toute la planète. Antoine Debecq est avec nous, son livre « La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire » est paru aux éditions Payot et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Une date pour commencer, 1765, c'est l'année de l'invention du restaurant et son inventeur, son nom est finalement assez peu connu du grand public. Hein. Il s'appelle Mathurin Rose de Chantoiseau, alors on pourrait penser que c'est un cuisinier, ce qui serait quand même assez logique pour l'inventeur du restaurant. Eh bien, pas du tout.
Non, c'est vrai que c'est aussi sans doute pour ça que son nom n'est pas resté dans les annales de la gastronomie. L'inventeur du restaurant est un économiste, en fait, est un physiocrate, hein, comme ce sont les économistes un petit peu à la mode à l'époque, dans les années 1760, 1770. Et ils ont un grand projet, ces économistes physiocrates. Ils veulent fluidifier les échanges. Il faut dire que la société française est corsetée par toute une série de privilèges, de corporations, de droits et de non-droits. Et donc il y a chez eux cette volonté de faire sauter tous les privilèges. Et dont les privilèges, alors pour Rose de Chantoiseau, c'est cette corporation qui a le privilège de servir la nourriture, de cuisiner et de servir la nourriture. Parce que comment on fait dans les années 1760 si on veut bien manger à Paris? C'est la question.
Il y a des auberges, il y a des tavernes.
Alors il y a des auberges, il y a des tavernes, il y a des beaucoup aussi. La mode est aux rôtisseries traiteurs.
Ouais.
Et puis sinon, si on est bien reçu à la table d'un aristocrate ou d'un prince qui a un bon cuisinier, évidemment c'est sans doute le mieux. Mais ces privilèges, ces corporations, donc les aubergistes. Évidemment, ou ce qu'on appelle les tables d'hôtes, encore mieux, peuvent servir à manger, mais ils le servent sur une table collective, à une heure fixe. Et il n'y a pas de choix, il y a un menu fixe.
Ouais.
Alors les rôtisseurs, autres corporations, peuvent servir dans leur boutique des rôtis, des poulets, mais on ne peut pas s'attabler pour les manger sur place. Donc il faut aller les manger ailleurs.
Et donc Rose de Chantoiseau, donc cet homme économiste, pétri de l'esprit de liberté, de l'esprit des Lumières, va racheter le fonds de commerce d'un boulanger, rue des Poulies à Paris. On est dans le quartier du Louvre, hein, voilà.
Vrai.
Et il va servir aux clients une volaille au gros sel et des œufs frais. Alors ça a l'air de rien comme ça, et c'est un geste, on va dire, presque pré-révolutionnaire.
Absolument,
Antoine Debecq.
C'est un geste radicalement nouveau. Alors d'abord, il s'allie avec un cuisinier, c'est-à-dire que lui ne sait pas faire la cuisine, donc il y a un cuisinier qui lui prépare 3 plats, dont celui dont vous avez parlé est peut-être le plus célèbre, en tout cas avec sa sauce poulette. La révolution, c'est moins ce qu'on mange, parce que bon, voilà, mais plutôt la manière dont on le mange. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une table individuelle. On peut venir à peu près quand on veut. En tout cas, les horaires sont beaucoup moins rigides que dans une table d'hôte, par exemple. Et puis, on a le choix entre... Alors, au début, c'est 3 plats. Ensuite, quand le restaurant va devenir à la mode, ça va être parfois des dizaines, voire des centaines de plats possibles.
Alors, ça marche plutôt bien.
Oui, très bien même. C'est un
même
succès.
Très bien. tellement bien que les rôtisseurs et les traiteurs qu'on évoquait à l'instant vont protester. Et alors commence une sorte de bataille de la sauce poulette, une sorte de bataille d'Hernani de la cuisine.
Non, c'est vrai que c'est très intéressant de suivre ça. Ça monte jusqu'à la plus haute autorité judiciaire du pays, qui est le Parlement de Paris.
Excusez du peu.
Voilà, qui vient in situ d'ailleurs goûter cette sauce poulette. Alors, c'est là encore moins le contenu de la sauce. Alors la sauce poulette, c'est une sauce aux œufs avec des champignons réduits en essence et additionnés de jus de citron et de persil. C'est moins ça qui pose problème que de savoir, et c'est le sens de la plainte des rôtisseurs et des traiteurs, est-ce que c'est un ragoût, auquel cas ce nouveau lieu devrait fermer parce qu'il n'a pas le droit de servir un ragoût. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux rôtisseurs. Ou alors, est-ce que c'est un nappage? Et à ce moment-là, le nappage échappe au privilège exclusif des rôtisseurs.
Et donc,
le Parlement de Paris se prononce pour le nappage. Et donc, c'est...
Ouf. Voilà, le restaurant peut continuer à se développer.
C'est l'ouverture le développement des restaurants sur ce fait juridique, fait jurisprudence, tellement d'ailleurs que le roi Louis XV se fait servir à Versailles une sauce poulette pour goûter le mets à la mode du moment. Donc c'est vrai que c'est un succès. Alors pourquoi est-ce que c'est un succès? Et là, les témoignages des premiers clients des restaurants sont précieux. Notamment, on a une lettre de Diderot qui écrit à Sophie Volant son contentement. Il trouve ça un peu cher quand même, mais il est très content d'être seul à sa table. C'est quelque chose vraiment. La vraie révolution, c'est ça. C'est d'être seul à sa table, d'avoir cette liberté de manger, de se taire, ou alors tout d'un coup de se mettre à discuter avec d'autres clients, ou avec un serveur, ou avec la femme qui reçoit et qui vous fait payer à la fin l'addition. Donc on entre dans une forme d'individualisation du repas qui est vraiment la marque là d'une sorte de changement, je dirais, culturel, voire social.
Arrive la vraie révolution, la révolution française, qui va donner un coup d'accélérateur à ce changement et au développement du restaurant, parce que les nobles vont quitter la France, c'est ce qu'on appelle les émigrés, et les cuisiniers de ces nobles vont donc se retrouver j'allais dire sur le carreau, mais en l'occurrence plus sur le trottoir, quoi. Ils vont sortir de l'hôtel particulier et ils vont aller vers la roture. Et c'est notamment le cas du cuisinier du comte de Provence. Alors c'est assez drôle parce que le comte de Provence, c'est le frère du roi, c'est le futur Louis XVIII, qui sera donc le premier roi de la Restauration. Donc voilà, un petit clin d'œil quand même. Et le cuisinier de ce comte de Provence-là, il s'appelle Antoine Beauvillier. C'est lui le premier restaurateur réellement, on peut dire ça comme ça.
Voilà, on peut dire que alors le premier restaurant rue des Poulies, donc on l'appelle ça comme ça parce que il avait eu l'habileté de mettre une enseigne qui était une phrase biblique, venez ceux qui ont faim, je vous restaurerai, et le mot restaurant alors désigne moins à ce moment-là le lieu que ce qu'on mange et la façon dont se met à presque des vertus pharmaceutiques médicamenteuses. Il vous restaure, il vous donne la forme.
Faut qu'il soit roboratif.
Voilà, roboratif. Et donc c'est vrai que avec la révolution, il y a une forme d'accélération du phénomène qui d'une mode qui pourrait être éphémère devient un véritable processus de civilisation, avec d'une part cette conjoncture qui fait que un certain nombre de grands cuisiniers du royaume se retrouvent à ouvrir à leur propre compte. Ils changent en quelque sorte de clients, ils ne sont plus les dépendants du prince, mais ils sont dépendants de leur nouvelle clientèle. Et cette nouvelle clientèle, c'est véritablement la nouvelle élite sociale, c'est la bourgeoisie, et c'est cette valeur du restaurant, de l'individualisation, du choix, ça correspond complètement à ce transfert d'une culture aristocratique à une culture sinon démocratique, plutôt bourgeoise,
puisque presque censitaire, parce qu'il faut quand même avoir suffisamment d'argent pour se le payer.
Le suffrage censitaire de l'estomac. Voilà. Il faut évidemment les premiers grands restaurateurs comme Beauvillier vont ouvrir des lieux qui sont un peu des décalques, des mimes de la parade aristocratique de la cuisine, hein. Et donc on est dans des hôtels particuliers, beaucoup autour du Palais Royal, hein, essentiellement, qui est un quartier aristocratique aussi, qui est celui de la rue Saint-Honoré, et donc on est dans une économie, hein, qui est celle du luxe, avec énormément de plats, avec un personnage comme Beauvilliers, par exemple, fait montre de toute sa culture aristocratique, hein. Venir chez lui, c'est véritablement
on est accueilli en grande pompe, voilà, hein,
on est
très cérémonieux,
on fait partie de l'élite, hein, il y a quelque chose comme ça, et c'est aussi une des conditions du succès des premiers restaurants, hein, ce transfert qui permet à la bourgeoisie qui monte de s'approprier en quelque sorte les habitudes et le mode de vie de l'aristocratie.
Et chez Beauvilliers, on sert par exemple ce potage dont vous nous parlez à la 100e page de votre livre, un livre qui est d'ailleurs plaisamment saupoudré de quelques recettes comme celle-ci.
Vous ferez cuire 10 ou 12 pommes de terre rouges dans les cendres chaudes. Quand elles seront cuites, vous les éplucherez, en ôtez tout le riz saulé et même tout ce qu'il y a de dur pour n'en prendre que le farineux, et vous le pilerez à sec. Vous y joindrez 4 blancs de volaille que vous pilerez bien ensemble. Quand le tout sera bien mêlé et sans grumeaux, vous y joindrez 6 ou 7 jaunes de cru, que vous pilerez avec vos pommes de terre et vos filets à plusieurs reprises. Ajoutez un peu de muscade et de gros poivre. Quand le tout sera bien amalgamé, vous y joindrez un peu de crème double, au point que vous puissiez coucher votre pâte à la cuillère. Vous la roulez pour en faire des quenelles ou des boulettes. Puis vous les ferez pocher dans du bouillon ou dans une eau de sel où vous joindrez un peu de beurre. Après qu'elles auront été pochées, c'est-à-dire cuites une demi-heure dans l'eau bouillante, vous les égoutterez et vous mettrez du bon bouillon dans votre soupière et vous y mettrez vos quenelles ou vos boulettes. Ayez soin que le tout soit de bon sel.
Ouais, et chez Beauvilliers ou chez les autres, l'addition est quand même aussi salée que la cuisine, hein. Ça, c'est le
témoignage qui revient le plus souvent, hein. C'est cette idée que voilà, il faut payer sa place pour aller au restaurant.
Ouais, mais est-ce qu'on est dans le luxe? Est-ce qu'il y a un vrai décor de luxe autour de la table?
Il y a
de l'argenterie.
Chez Beauvilliers, oui, les manières de table et le décorum est vraiment directement repris de l'hôtel particulier de l'aristocrate. C'est vraiment quelque chose de très symptomatique. Et là aussi, les témoignages sont tous d'accord sur le côté très impressionnant du décor.
Avec énormément de plats aussi, hein,
énormément
sur
plats,
la carte. Vous parlez d'ailleurs du service à la russe. C'est quoi le service à la russe?
Alors oui, cette métamorphose, cette révolution du restaurant s'accompagne d'une autre révolution qui est celle de la manière dont on mange. À la fois, il y a une révolution des horaires, hein, c'est-à-dire que on va ajouter un repas, ce qui n'est pas négligeable évidemment pour les restaurateurs. On va se mettre à manger vers midi et demi, un repas froid, ce qui n'existait pas jusqu'alors, ce qu'on appelle le déjeuner à la fourchette. Et puis l'heure du dîner va vraiment se fixer en se décalant vers le soir. Avant, on pouvait dîner vers 5-6 heures, là on va dîner vers 7-8 heures. Et puis le souper après le spectacle, par exemple, vient clore la journée. Donc il y a 3 repas. Et puis d'autre part, oui, le service change, puisque dans les hôtels particuliers aristocratiques ou chez les princes, on servait à la française, c'est-à-dire qu'on amenait tout en fait en même temps sur la table. Voilà, les convives arrivaient et pouvaient admirer. Il y avait une sorte de
la profusion des mets qu'on leur offrait,
du luxe de l'hôte qui recevait comme cela en se faisant admirer, hein, en faisant admirer la qualité de son cuisinier. Dans le restaurant, on ne peut pas suivre ce principe, d'abord pour des raisons, je dirais, culinaires, au sens où on choisit entre énormément de plats, donc on ne peut pas tout amener. Et puis d'autre part, le problème vraiment du service à la française, c'est qu'on mange froid une bonne partie du repas, et ce qui n'est pas le cas du restaurant. Et les grands cuisiniers savent très bien que c'est très important, de la température de ce qu'on mange est très importante. Donc le service à la russe propose les plats successivement, en fait, au fur et à mesure des portions généralement individuelles, comme ça, au fur et à mesure du repas. Et donc ça, c'est une vraie métamorphose du service qui occupe toute la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. On peut dire que vraiment, dans les années 1820-1830, la manière de manger au restaurant moderne, je dirais, est en place.
Voilà, donc à ce moment-là, l'essentiel des restaurants parisiens se concentre autour du Palais Royal. Vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un plan du quartier qui est reproduit dans votre livre. Et parmi les habitués de ce quartier du Palais Royal et de la tournée des restaurants, il y a un certain Alexandre Grimaud de la Reynière, qui quelques années plus tard, en 1802, sous le consulat, va organiser des dîners chez lui ou dans un restaurant de la rue Montorgueil, le Rocher de Cancale. Il existe toujours, mais il a déménagé très légèrement.
Oui, et puis c'est plus vraiment un restaurant, non. C'est une sorte de café. Il y a la façade encore qui est très belle.
Voilà, c'est un homme assez étrange. Ce Grimaud de la Reynière.
Grimaud de la Reynière est un homme étrange, à la fois déjà physiquement. C'est un homme, c'est une sorte de gnome, un petit peu, un peu monstrueux, qui, par ailleurs, n'a pas vraiment de mains, et donc il a des prolongements mécaniques. Donc les deux principales activités de Grimaud de la Reynière, c'est-à-dire manger et écrire, il les fait grâce à cette sorte de prolongement mécanique de son corps. C'est un aristocrate, il fait vraiment partie de cette élite. Donc il a été tout à fait habitué dès sa plus tendre enfance à manger, à apprécier. Et il va être une sorte de fer de lance de ce qu'on pourrait appeler le mouvement gastronomique, la naissance de la gastronomie, avec cette idée que l'écriture sur ce que l'on mange et comment on l'en mange et comment on l'apprécie et comment aussi on en parle est quelque chose d'essentiel à la joie du convive. Et c'est vrai que se développe avec Grimaud de la Reynière un lexique, un vocabulaire de façon très précise, souvent assez sensuelle, assez presque parfois aussi scientifique, presque. Il y a des formules chimiques. Comment est-ce que le goût se forme? Comment est-ce que tel plat forme telle sensation? Ce sont des choses très très précises comme ça qui sont approchées par la langue gastronomique. Et puis Grimaud de la Reynière a la vision, en quelque sorte, il comprend que tout cela ne peut passer que par une sorte de tribunal, en fait,
un jury
dégustateur, ouais. C'est-à-dire que pour donner véritablement sa légitimité au restaurant et à la manière de manger et à ceux qu'on mange et donc aux cuisiniers, il s'agit de les juger et de pouvoir les critiquer. Donc c'est aussi
on arrive à la critique gastronomique,
absolument la critique. L'almanach gourmand de Grimaud de la Reynière, c'est le premier ouvrage, la première critique gastronomique. Le jury dégustateur, c'est aussi une des institutions de la critique. C'est le premier Michelin, si vous voulez, où les grands cuisiniers vont faire apporter leurs plats, soit chez Beauvilliers, soit chez Grimaud, soit au Rocher de Cancale. Et donc un jury de quelques personnes se réunit, discute, note, et Grimaud publie un petit peu les minutes et les attendus de ces jugements dans son almanach. Donc c'est quelque chose de très important et se met en place autour de ces quelques institutions vraiment une culture gastronomique.
Et donc les gastronomes et les cuisiniers d'aujourd'hui lui donnent donc une sacrée chandelle à ce Grimaud de la Reynière, mais aussi peut-être à Jean Anthelme Brillat-Savarin. Alors lui, c'est un avocat, c'est un magistrat, c'est un écrivain aussi, qui va publier en 1825 un ouvrage dont je me demande s'il n'est pas devenu pour vous une sorte de bréviaire en toile de bec, parce que vous le citez abondamment, un traité qui s'appelle Physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante. Les titres étaient un peu plus longs que ceux d'aujourd'hui à l'époque. Lui aussi, d'une autre façon que celle de Grimaud de la Reynière, mais il va participer à la légitimation de l'art culinaire.
Absolument. Sous le régime, disons, philosophique ou savant, Brillat Savarin est aussi un historien de la cuisine. Il brosse dans son traité une histoire de la cuisine dont l'accomplissement serait justement la gastronomie française, la cuisine française et donc le restaurant. C'est très clair dans la façon dont cette histoire est écrite, mais c'est aussi la langue philosophique qui vient légitimer la gastronomie.
C'est-à-dire c'est intéressant parce que tous les philosophes n'étaient pas d'accord.
Ah oui,
vous parliez de Diderot tout à l'heure. Diderot et l'encyclopédie étaient quand même assez réticents à reconnaître.
Il y a une grande polémique sur ce qui s'appelle. C'est un paradoxe, c'est amusant. On appelle déjà ça la nouvelle cuisine dans les années 1770-1780. Et la grande question, qui est portée par exemple par Diderot. Diderot aimait beaucoup manger. Il a témoigné sur les restaurants. Mais il était quand même très sceptique sur l'idée que la philosophie puisse s'emparer d'une chose aussi aussi futile, peut-être aussi triviale. Et c'est une des grandes questions de l'époque. Et Diderot tranche de façon assez sévère. L'article sur la cuisine dans l'encyclopédie est très sévère sur ce qu'il nomme avec un petit peu de mépris les gastrolâtres. Voilà. Mais on peut dire que le combat de Diderot est perdu. C'est-à-dire que je pense que celui de Brillat Savarin, c'est Brillat Savarin qui gagne ce combat. Effectivement, quelques décennies plus tard, la langue philosophique deviendra un des principaux vecteurs de la légitimation de cette nouvelle cuisine qui va s'imposer. Et donc oui, c'est sûr que ce binôme Grimaud de la Reynière sur je dirais la littérature gastronome et Brillat Savarin sur la philosophie du goût, la philosophie gastronome, on peut dire que c'est un des grands vecteurs comme ça de la légitimation de la grande cuisine française, oui.
Alors, monsieur Carême, tout est prêt ?
Il faut bien monter. Toi ?
Monseigneur nous a prévenu très tard. Il y a encore beaucoup de désordre là-haut.
Quelle fumée !
À tout à l'heure.
Tiens, monte déjà le foie gras. Il faut jamais voyager à vide.
Voilà, un court extrait du Souper, le film d'Edouard Molinaro en 1992, adaptation de la pièce de théâtre écrite par Jean-Claude Briseville et qui met en scène Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, l'ancien ministre de la Police, et le regretté Claude Riche dans le rôle de Talleyrand, ancien ministre des Affaires étrangères. Et ce monsieur Carême dont il est question, Antoine Debecq, c'est le cuisinier de Talleyrand, celui qui aimait dire que le meilleur auxiliaire d'un diplomate, et c'était bien son cuisinier. Et c'est vrai que c'est un binôme, là aussi on parlait du binôme la Reynière Brillat Savarin. Là c'est aussi un binôme très important dans l'histoire de la gastronomie française à l'international cette fois, parce qu'il y a une forme de diplomatie gourmande là que Talleyrand va mettre en œuvre.
Absolument. Talleyrand qui aimait manger, qui avait donc découvert cette perle qui est Antonin Carême.
Il est parti de rien.
Qui est parti de rien, qui est un enfant trouvé, un enfant de la rue, qui va monter peu à peu comme apprenti c'est un pâtissier, donc il est formé à la pâtisserie dans le quartier du Palais Royal et il va jusqu'à même aller au centre du Palais Royal, tout proche du Palais Royal, il y a la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque Royale à l'époque, et il va consulter les grands principes et les grands dessins d'architecture, par exemple de Palladio, de la Renaissance italienne, pour essayer de confectionner des pâtisseries à l'image de cette architecture. Donc là aussi, il y a un travail de légitimation qui passe par la grande culture. Voilà, pour Carême, qui est à la fois un génie de la cuisine et en même temps aussi un vrai intellectuel, un artiste et un écrivain, il y a cette idée que la cuisine fait vraiment partie de la culture et il sera reconnu un petit peu comme le premier grand chef artiste. Et donc Talleyrand tombe sur cette perle et c'est vrai que il a l'idée assez vite que qu'un des atouts de la diplomatie française, donc Talleyrand est le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, et il sera ensuite celui de la Restauration, donc voilà, il a cette continuité, et quand il arrive au traité de Vienne, voilà, la France a perdu, hein, la France est occupée, Paris 1814, est occupée en 1814, et son véritable argument, c'est Carême, c'est-à-dire que il arrive à Vienne et il va organiser, grâce à Carême, des repas magnifiques, et voilà, tous les diplomates d'Europe se précipitent au repas donné par Talleyrand, par la diplomatie française. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de politique de diplomatie culinaire qui fait que, je dirais pas que c'est grâce à Carême que la France sort la tête moins basse, disons, oui, du traité de Vienne, mais quand même, ça compte.
Ah,
bien sûr, c'est quelque chose qui compte dans la... Voilà, dans la réputation de la France, dès ce moment-là, disons au niveau international, par exemple, c'est sûr que la cuisine et donc le restaurant, on vient à Paris pour manger. Il y a des images qui sont très très explicites de ça, et Carême va faire une carrière internationale magnifique, hein, entre Vienne, Londres, et il ne reviendra à Paris que à la fin de sa vie, pour y mourir, hein, et voilà, il est une sorte de gloire internationale de la cuisine, et c'est la première gloire internationale française de la cuisine.
Alors, il est surtout connu pour ses pièces montées, hein, c'est un petit peu le plat qui est vraiment représentatif, on va dire presque le totem de Carême, mais parmi les recettes que vous publiez dans le livre, Antoine Debecq, il y a le civet de lièvre.
Après avoir dépouillé un lièvre trois quarts, coupez-le en morceaux. Mettez dans une casserole une demi-livre de petit lard bien dessalé. Joignez-y un quarteron de bon beurre et passez-le jusqu'à ce qu'il roussisse légèrement. Ajoutez-y deux fortes cuillerées, à la bouche, de farine que vous mêlerez bien, et ensuite les morceaux du lièvre. Assaisonnez de poivre, épices, point de sel, un bouquet garni de thym, laurier, basilic, un oignon piqué de clous de girofle. Laissez mijoter 1 h 15, suivant la force ou la dureté du lièvre, que la sauce réduise pendant la cuisson sans attacher. Prenez 1 litre de petits oignons, passez-les au beurre de belle couleur, mouillez d'un peu de consommé, un peu de sucre, faites-les cuire à part, de manière qu'en cuisant, ils tombent à glace. Ajoutez 2 maniveaux de champignons tournés. Lorsque le lièvre sera presque cuit, retirez l'oignon piqué de clous de girofle et le bouquet garni. Jetez dans le civet les champignons et goûtez alors si le civet est bon de sel, pour en ajouter s'il en manque. Achevez la cuisson, détachez avec quelques cuillerées de sauce les petits oignons, dressez, garnissez le civet avec les oignons et les champignons et saucez.
Et on s'en rend très bien compte en écoutant cette recette, Antoine Debecq. L'idée, j'allais presque dire l'idéal d'Antonin Carême, c'est vraiment la saveur, quoi. C'est vraiment le goût. C'est vraiment de la cuisine d'un extrême raffinement.
Voilà. Carême, c'est à la fois cette exaltation de la saveur, et c'est en même temps aussi une simplification de la cuisine. C'est-à-dire que tout est mis au service de cette saveur, du goût. Et donc tout ce qui pouvait être des restes de tradition qui peuvent on peut aimer, par exemple le salé sucré, hein, c'est des choses comme ça que mais pour Carême c'est il vise une sorte de simplicité,
il faut choisir,
de
quoi.
Pureté, voilà, de pureté du goût, de la saveur, qui fait qu'il a en quelque sorte à la fois débarrassé la cuisine de tout ce qui pouvait être les contrastes trop forts, en même temps il va vers quelque chose qui est une forme de simplification de la cuisine qui est extrêmement efficace, et en même temps qui va faire un petit peu la réputation, disons, de la cuisine française, hein, qui est une cuisine qui est à la fois très raffinée, mais qui en même temps joue sur une forme de pureté du goût plutôt que de contraste des saveurs.
Voilà, simplification et pureté du goût, et en même temps glorification du cuisinier, parce qu'il a quand même une assez haute estime de lui-même. Marie-Antoine dit Antonin Carême.
Oui, et c'est une estime qu'il se construit, puisque c'est vraiment un autodidacte, contrairement à la plupart des grands cuisiniers de la fin du XVIIIe siècle, hein, qui sont donc plutôt qui viennent de la table aristocratique. Lui, il vient vraiment de rien, de la rue. Et cette haute idée de lui-même, il l'a...
Il la matérialise.
La matérialise dans un emblème, hein, qui est voilà. La toque, voilà. Puisque c'est lui qui va inventer la toque moderne, c'est-à-dire ce qui va être un peu l'emblème du cuisinier.
Et vous démystifiez un petit peu l'histoire de l'invention de la toque, parce qu'on lui a prêté une aventure amoureuse, et finalement vous dites, ah ben non, elle est apocryphe, cette histoire.
Non, c'est sûr que, autour de la toque, on a construit un mythe, une mythologie, la mythologie du grand chef, voilà, même le terme de chef est quelque chose qui parle de ça, de cette sorte de gloire d'un chef militaire, enfin d'un grand homme. Alors Carême avait cette idée là mais voilà, la toque est beaucoup plus une idée très matérielle, très pratique, qui est l'adaptation, disons, par Carême, du bonnet des apprentis, du bonnet qu'il a mis quand il a commencé à être apprenti chez un pâtissier. Et donc, voilà, c'est une simple élévation du bonnet pour dire quand même, voilà, qu'il s'est lui-même élevé, mais tout ça part de quelque chose qui est très matériel. Et c'est ce qui est beau aussi chez Carême, hein, c'est qu'il est à la fois un grand matérialiste, je dirais, de la cuisine, hein, un grand cuisinier, quelqu'un qui cherche constamment la pureté de la saveur, et en même temps c'est aussi un écrivain, et c'est assez rare que les grands cuisiniers soient aussi des penseurs et des écrivains de leur pratique.
Quelques mesures extraites de l'opérette d'Offenbach, La vie parisienne, dans VMDN sur RFI. Offenbach qui nous fait passer Antoine Debecq du quartier du Palais Royal au Grand Boulevard, hein, entre l'Opéra et République, ce qui correspond là aussi à une nouvelle étape finalement de la démocratisation de la cuisine.
Oui, la migration des restaurants depuis le Palais Royal, donc quartier très aristocratique, jusqu'au boulevard, c'est... Ça représente peu de choses topographiquement, hein. C'est quoi, 500 mètres, 1 kilomètre maximum.
Et pourtant,
voilà, c'est une vraie mutation dans l'histoire du restaurant et de la cuisine. Donc, à la fois, on va trouver sur les boulevards les lieux à la mode, donc les grands restaurants vont simplement migrer ou vont fermer au Palais Royal et rouvrir parfois ou se créer sur les boulevards, puisque voilà, le boulevard c'est la promenade à la mode de l'époque, où là encore la bourgeoisie parade, hein, voilà, c'est sur 15 mètres, 20 mètres de large, c'est vraiment le lieu qui regroupe, on peut dire, tous les théâtres, toutes les boutiques, tous les lieux de plaisir, et y compris ceux du plaisir de la bouche, hein, du plaisir de manger. Mais les boulevards, par rapport au Palais Royal, c'est un lieu beaucoup plus ample, et où c'est le lieu de la modernité, au sens où c'est le lieu du mélange.
De la mixité sociale.
Et notamment de la mixité sociale, c'est-à-dire que oui, on peut trouver sur les boulevards une sorte de mélange social extrêmement à la fois excitant, moderne, donc comme cela a été remarqué par beaucoup de témoins, et aussi parfois un petit peu dangereux d'ailleurs, hein, c'est un lieu qui c'est une promenade comme ça qui sent le soufre, et donc vont ouvrir sur les boulevards des restaurants qui vont correspondre à cette mixité sociale.
Ça veut dire qu'on tire l'addition vers le bas?
Ça peut vouloir dire qu'on tire l'addition vers le bas, c'est l'intuition d'un boucher, en fait, qui s'appelle Monsieur Duval, hein, dans les années 1840, hein, et qui va ouvrir à partir des pièces de viande qu'il a, il peut ouvrir un premier bouillon. Alors il appelle ça un bouillon parce que voilà, on sert quelque chose d'assez simple, hein, comme le dit le bouillon, donc au prix relativement modeste, et surtout l'intuition de Duval, c'est la chaîne, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on peut fabriquer comme ça de la cuisine en série, et donc il va ouvrir tout autour des boulevards 8 bouillons hein, qui vont lui permettre comme ça de faire baisser les prix avec une économie extrêmement rentable, et donc voilà une clientèle beaucoup plus populaire va pouvoir fréquenter ce type de restaurant que sont les bouillons. Et puis il y a
l'autre type, la brasserie.
Voilà, alors là la brasserie c'est vraiment le reflet de la mixité, c'est-à-dire qu'on va trouver dans la brasserie tous les publics possibles, hein, de la bourgeoisie à un public beaucoup plus populaire, et les brasseries proposent des plats très nombreux, c'est un peu leur spécialité, et une cuisine assez roborative, mais qui
brasserie alsacienne forcément.
Alors elle est au début, en tout cas la brasserie par définition c'est quand même la bière, et donc oui c'est les premiers brasseurs et qui ouvrent des brasseries sur les boulevards sont des Alsaciens, et puis surtout ça correspond à un moment historique important, c'est la défaite de 1870 avec l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace, et donc toute une série de brasseurs vont venir d'Alsace, de Strasbourg, pour s'installer à Paris. Et c'est aussi une sorte de solidarité avec l'Alsace meurtrie hein, que d'aller dans la brasserie dans les années 1870. Donc oui, il y a un phénomène qui est à la fois un phénomène de mode, un phénomène social, un phénomène culturel, hein, qui est la construction de ces immenses brasseries tout au long des boulevards, qui font que finalement, avec le nombre de restaurants qui ouvrent là, le nombre de bouillons, le nombre de brasseries, on est devant un phénomène qui est vraiment massif, hein, on estime à la fin du 19e siècle que près de un Parisien sur 10 hein, mange tous les soirs au restaurant.
Oui, ce qui est quand même c'est impressionnant.
Voilà.
Alors, quand il y a du monde, Antoine Debecq, quand les salles sont pleines, il faut que ça tourne, il faut donc s'organiser, il faut être efficace. Et c'est là qu'entre en scène le dernier grand nom, le dernier pionnier auquel vous rendez hommage dans votre livre, j'ai nommé Auguste Escoffier. Alors, on évoquait la guerre à l'instant, c'est finalement de l'organisation militaire qui a tiré son inspiration.
Absolument, Escoffier a cette... alors, Escoffier n'est pas un militaire,
non, c'est pas un cuisinier de troupes. Hein,
non, c'est un cuisinier du Midi de Nice, c'est un jeune niçois qui commence dans un restaurant niçois, mais qui en même temps, au cours de la guerre de 1870, est affecté à la cuisine et va... réorganiser la cuisine militaire en la rendant à la fois extrêmement efficace et plutôt bonne hein, d'après les
l'un n'empêche pas l'autre,
voilà, d'après les menus qu'on a et les témoignages hein, de soldats, disons que la France perd la guerre de 1870 mais mange mieux.
Je suis pas sûr que ce soit une vraie consolation, mais enfin bon,
oui, c'est peut-être là est peut-être lié à l'autre d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, Escoffier tire de cette expérience de la cantine militaire une organisation de la cuisine qu'il va appliquer à son restaurant quand il arrive à Paris, hein, c'est celle de la brigade. Donc la brigade, bon, c'est un mot qui vient du vocabulaire militaire.
Hein, qui est toujours utilisé aujourd'hui.
Absolument, c'est une organisation de la cuisine, comme ça, extrêmement hiérarchisée, et puis avec une spécialisation des tâches, comme ça, qui fait que, grâce à l'organisation en brigade des cuisines, on estime que Escoffier fait un gain d'à peu près deux tiers de temps, c'est-à-dire pour faire un plat, il faut un tiers de temps du plat d'avant. Donc c'est quelque chose de très efficace et qui va marquer vraiment l'organisation de la cuisine. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, Escoffier va mettre en place des restaurants très important, très grand. C'est ce qui se passe au moment de sa rencontre avec un autre visionnaire, disons, de l'histoire du restaurant, ou plus largement de l'histoire des hôtels, hein, puisque c'est Edgar Ritz qui ouvre avec Escoffier les premiers palaces. Donc ces lieux immenses, hein, comme le Savoie, comme le Carlton, voilà, tous ces immenses paquebots où on peut peut recevoir des centaines de convives à la fois, et il faut effectivement une efficacité dans l'organisation de la cuisine qui est absolument nécessaire à pouvoir satisfaire ce monde de façon assez rapide.
Et donc, c'est Toritz justement qui a créé l'un des desserts qui aujourd'hui encore a beaucoup de succès dans les restaurants parisiens. Alors, Escoffier, il a inventé la poire Belle Hélène, il a aussi inventé la pêche Melba en l'honneur de la cantatrice du même nom.
Prenez de belles pêches de Montreuil, autant que vous avez de convives, que vous pelez, puis pochez-les dans un sirop vanillé léger. Dressez les pêches sur un lit de glace à la vanille, dans une terrine d'argent, présentée dans un plat empli de glace pilée. Nappez les pêches d'une purée réalisée avec 250 g de framboises très fraîches, passées au tamis fin et 150 g de sucre en poudre. Facultativement, pendant la saison des amandes, on pourra parsemer sur les pêches quelques amandes fraîches effilées, mais ne jamais employer d'amandes sèches.
Voilà, petite note sucrée et gourmande en dessert de cette émission. Antoine Debecq, un dessert créé, on le disait, au Ritz à Paris, place Vendôme, hein, on est dans le quartier des Champs-Élysées. Là, c'est le troisième, finalement, un quartier parisien que vous évoquez un peu longuement. On peut réellement parler là d'un glissement vers la cuisine de luxe, la cuisine de palace.
En tout cas, oui, c'est à ce moment-là que se met en place cette cuisine de luxe, cuisine de palace, mais qui
n'est
pas...
plus en complémentarité, hein, voilà, par rapport aux autres quartiers. Hein.
Cette cuisine-là n'empêche pas une autre cuisine. On est désormais devant une sorte de palette complète du restaurant qui va donc du bouillon populaire au palace, en passant par le grand restaurant, un certain nombre de cafés aussi. Se sont mis à le café anglais, par exemple, sur les grands boulevards, hein, se sont mis à servir cette cuisine. Donc voilà, et là, si on ajoute la brasserie, il y a toute une gamme comme ça de restaurants qui fait que finalement toutes les bourses en ont pour leur argent. Et puis d'autre part, ce qui est très, me semble intéressant, c'est la façon dont ça circule entre ces différents lieux. C'est-à-dire que il y a des agents un peu particuliers de cette circulation, notamment les critiques gastronomiques, hein, ça c'est cette critique gastronomique s'est mise en place, et elle n'hésite pas à faire des lieux très différents, à rendre compte de lieux très différents, à repérer comme ça des chefs, à repérer de la nouveauté. Ils sont très à l'affût de cela. Et puis il y a toute l'expérience aussi des artistes et des écrivains, hein, qui peuvent, c'est le propre d'une certaine manière de la bohème, hein, de commencer au bouillon et puis de passer au palace et puis peut-être parfois de revenir au boui-boui. Il y a comme
et
ça.
Vous évoquez quelques-uns des écrivains, d'ailleurs, dans le livre, il y a Balzac je sais pas s'il était gastronome, gourmet, on peut dire ça comme ça, Balzac.
Balzac était gastronome et gourmet, c'est-à-dire que il est un très fin observateur de cette habitude sociale et qui le passionne, hein. Balzac dessinait ce qu'on pourrait appeler, enfin écrivait ce qu'on pourrait appeler des physionomies, et il y a chez lui plusieurs physionomies du gourmet, du gourmand, du gastronome. Il était par ailleurs aussi un gros mangeur, c'est-à-dire que quand la description d'un repas de Balzac, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un pantagruélique, et notamment son goût pour les pêches, hein, et pour les poires. Il pouvait manger une douzaine de poire de Montreuil à la suite, comme ça, c'est tout en laissant souvent l'addition à son éditeur.
Voilà, comme quoi, hein, effectivement, il faut toujours se méfier des écrivains. En tout cas, ce qui prouve que littérature et gastronomie ont toujours fait bon ménage, et on le constate quasiment à chaque page de ce livre, La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire. Il est édité chez Payot. Merci beaucoup, Antoine Debecq, d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
C'était le 20 mars 1999. Ousmane Sow exposait 75 sculptures géantes sur le pont des Arts à Paris, entre Saint-Germain-des-Prés et le Louvre. 3 millions de visiteurs allaient se presser devant les œuvres de ce sculpteur sénégalais, aussi francophile que francophone. 20 ans plus tard, jour pour jour, et en cette journée mondiale de la francophonie, la mairie de Paris a inauguré hier le couple de lutteurs, une œuvre de l'artiste décédé il y a 3 ans. Vous pouvez donc l'admirer désormais place de Valois, entre le musée du Louvre et le ministère de la Culture, autrement dit au Palais Royal qu'on évoquait il y a quelques minutes avec Antoine Debecq. Reportage à la cérémonie signée Fanny Blechner.
C'est un moment de bonheur, de fierté et d'émotion.
Le Monde se presse ce mercredi sur la place de Valois, dans le premier arrondissement de la capitale. L'attention est portée sur une sculpture en bronze de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, intitulée « Couple de lutteurs ». Une œuvre qui trouve toute sa place dans ce lieu parisien pour Christophe Gérard, adjoint à la mairie de Paris pour la culture.
Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la délicatesse de l'écrin de cette place de Valois. Elle est d'abord symboliquement à côté du ministère de la Culture, elle est près du Louvre, elle est près du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, près de la Comédie-Française. On est vraiment près des symboles très puissants de la France et de l'exception culturelle française. Mais je voudrais rappeler que, grâce à lui aussi, c'est un message envoyé à la francophonie. C'est le début, là, d'un moment francophone très important. Donc c'est aussi, grâce à lui, le réveil de la langue française, mais de façon plastique. Et la délicatesse de l'œuvre est absolument magnifique. Et la maire de Paris voulait vraiment, Anne Hidalgo, qu'un symbole puissant soit donné d'abord à l'art dans l'espace public. Paris est de fait aussi une ville africaine. Et Ousmane Sow en est incontestablement le plus grand des ambassadeurs.
Il faut dire que l'artiste a vécu à Paris. Arrivé dans les années 50, il y a notamment exercé la profession de kinésithérapeute avant de s'installer à Dakar en 1980. À un peu plus de 50 ans, ses sculptures connaissent alors un véritable succès et une exposition est organisée à Paris sur le Pont des Arts où 3 millions de visiteurs s'étaient rendus en 3 mois. C'était le 20 mars 1999, 20 ans donc jour pour jour hier. La fille d'Ousmane Sow, Marina Sow, se félicite de cet accueil parisien depuis des années, mais apporte une certaine nuance.
Aujourd'hui, même si c'est pas très diplomatiquement et protocolairement correct de le dire, il est plus connu aujourd'hui en France et notamment à Paris que chez lui au Sénégal. J'espère que la tendance va s'inverser puisque nous avons ouvert une maison Ousmane Sow, donc là où il a vécu, une maison qui aujourd'hui reçoit énormément de monde et notamment beaucoup de locaux. Donc voilà, on espère juste que la tendance va s'inverser parce que bien sûr que c'est un immense honneur aujourd'hui de le voir à Paris, reconnu à Paris, mais on aimerait qu'il en soit de même dans son pays d'origine.
L'arrivée de ce couple de lutteurs fait en tout cas parler dans le quartier. Les promeneurs s'interrogent notamment sur sa composition, explique Béatrice Soulet, la compagne d'Ousmane Sow.
Depuis qu'il est installé, plusieurs personnes sont venues me poser la question qu'on posait toujours à Ousmane au sujet de ses originaux. Les gens demandaient toujours qu'est-ce que c'est la matière, et la matière, la matière. Et là, 3 personnes sont venues me demander qu'est-ce que c'est la matière. Et en fait, c'est parce qu'Ousmane a travaillé ses bronzes avec une patine proche de ses originaux. Donc mat et qui a un aspect terreux, mais c'est un bronze.
Une œuvre à la portée universelle en cette semaine de la francophonie.
Elle est africaine et pas africaine, oui, elle est vraiment universelle celle-là. Pour moi, ça pourrait être un Léonard de Vinci, quoi. Il a été révélé très soudainement et tout de suite reconnu avec les Noubas. Et là, ce sont 2 lutteurs Noubas qui s'appellent le couple de lutteurs corps à corps. C'est un combat, mais c'est une œuvre dans laquelle il y a une douceur formidable, quoi. Et ça pourrait être une danse. Il y a comme un mouvement arrêté. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très puissant dans cette sculpture.
Un couple qui semble en effet s'enlacer lorsque la cérémonie se referme sur une musique qu'appréciait particulièrement Ousmane Sow, Caressez-moi.
Reportage signé Fanny Blechner. Et puis notez qu'une place Ousmane Sow sera inaugurée à Paris très bientôt dans le 15e arrondissement, cette fois plus précisément en juin prochain. Merci de votre fidélité à RFI, à Vous m'en direz des nouvelles. Dans un instant, le journal. À demain.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.